I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans Le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. La violence, voilà un terme qui semble ne pas vouloir décoller de nos fils d'actualité depuis quelques semaines. Depuis que chaque samedi, Paris, et maintenant Bordeaux, Nantes, Saint-Etienne ou Toulouse s'embrasent lors d'affrontements entre gilets jaunes et forces de l'ordre. Alors on a déjà eu l'occasion d'évoquer ici la violence côté police, mais qu'en est-il du côté des manifestants? Une dimension en particulier nous a frappé. Lorsqu'on regarde attentivement les images des échauffourées, lorsqu'on s'intéresse aussi au profil des personnes jugées en comparution immédiate dans la foulée des débordements, on constate que ce sont essentiellement des hommes qui cassent, qui font usage de la violence. Alors, où sont les casseuses? Qu'est-ce que cette segmentation en termes de genre nous dit de la construction de nos identités? Et par ailleurs, cette violence physique ne masque-t-elle pas une autre brutalité plus insidieuse, la violence sociale, véritable moteur des mobilisations actuelles? Ce sont toutes ces questions qui vont nous guider pour l'épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Et pour cet épisode, je ne suis pas seul puisque ma camarade Victoire Tuaillon des Couilles sur la Table, fameux podcast de la grande famille Binge Audio, est avec moi. Salut Victoire.
Salut Thomas.
C'est ensemble que nous sommes allés à la rencontre de notre invitée la plus qualifiée à nos yeux pour répondre à toutes nos questions, Elsa Dorlin.
Oui, on est allé voir Elsa Dorlin parce qu'elle est professeure de philosophie à l'université de Paris 8. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Se défendre, une philosophie de la violence » qui part aux éditions La Découverte. Et puis, elle fait partie de ces intellectuels qui prennent en compte les concepts de classe, de genre et de race, ce qui nous semble à Binge Audio indispensable pour comprendre notre société. La première question qu'on lui a posée, c'est tout simplement: comment expliquer que chez les Gilets jaunes, comme dans d'autres mouvements sociaux, l'immense majorité de ceux qui commettent les violences, les destructions matérielles, mais aussi les violences policières, sont des hommes?
C'est évident qu'il y a une part de socialisation, c'est-à-dire de l'idée que dans la socialisation, en tant que justement garçon ou homme, il y a une forme d'autorisation beaucoup plus grande à l'usage de la violence, et même tout simplement à l'usage du corps, en fait.
Voilà, ouais,
donc c'est un peu différent, c'est-à-dire que sans même parler de la violence, une socialisation genrée, c'est précisément, elle va marquer une distinction entre un corps déployé, tout simplement dans une cour d'école, les garçons vont être beaucoup plus encouragés, autorisés à jouer au foot, et du coup prennent tout l'espace. Mm-hmm. Mais c'est aussi une expérience qui est intéressante, c'est-à-dire qu'ils font l'expérience de leur corps déployé. Voilà, courir, prendre l'espace, leur espace vital est beaucoup plus large, etc. Alors que les jeux des filles, par exemple, qui sont du coup un peu cantonnés sur les côtés de la cour, vont être des jeux beaucoup plus immobiles, statiques, avec un corps plus rentré. Donc en fait, la violence, être familiarisé à la violence, ça commence par là. C'est tout simplement faire l'expérience de ses propres capacités d'agir, de sa puissance corporelle. Et ça se joue par des choses qui sont vraiment, sans parler de casse, mais qui sont dès le départ sur la façon dont on autorise un corps à occuper un espace ou pas. Et puis... peut-être il y a aussi un point, je dirais, pragmatique, c'est-à-dire que quand on est sur une mobilisation, sur une occupation, sur un barrage, en manifestation, Il y a aussi toute cette idée de la charge mentale, hein, dont on a beaucoup parlé ces dernières années. C'est l'idée, peut-être qu'à un moment donné, quand on voit que ça commence à chauffer ou que la répression policière est en train de passer à un niveau supérieur, eh bien, à un moment donné, on se dit « Ok, moi, il faut que j'aille chercher mes gosses, que je fasse attention, voire que je ramène mes gosses en arrière pour les protéger. » Et ça, c'est majoritairement un souci féminin, du fait aussi d'une socialisation féminine.
Donc du souci des autres, et du care, d'être socialisé, à s'occuper des autres.
C'est pas forcément le souci des autres, mais c'est tout simplement le souci des personnes qui dépendent de moi, en fait. Donc, c'est même sans parler, vraiment sans entrer dans des grandes théories, je pense qu'il y a vraiment une idée, se ramener à un niveau très, très concret, en fait, très prosaïque.
Mais dans la série très prosaïque, justement, ça me frappe ce que vous avez dit sur le corps et le fait de déployer son corps, parce que je me disais, à voir ces gens détruire des trucs, je me disais, mais j'ai l'impression que moi, physiquement, je n'en serais pas capable. Mais comme femme, pas parce que je ne serais pas musclée ou je ne sais pas quoi, mais juste parce que ce truc de prendre de la place, de lancer des choses et tout, j'ai l'impression que je n'ai pas eu d'entraînement du tout à ça, en fait.
Bah oui, ça,
vu que j'étais socialisée comme
exactement,
une fille.
Exactement, mais ça s'appelle la discipline des corps, c'est-à-dire que le corps est une matière particulièrement efficace pour discipliner en fait les esprits et la façon dont je me représente comme étant autorisée à faire ceci ou légitime à accomplir cet acte, etc. Et parler fort, crier, taper du poing sur la table. Encore une fois,
lancer des trucs, casser des...
Ouais, exactement. Ouais. D'abord, il y a une question d'entraînement, c'est-à-dire que c'est des gestes auxquels il y a moins de familiarité, peut-être, en tout cas, si on veut parler globalement, parce qu'après, il faudrait vraiment...
Il y a toujours des exceptions, et tout.
Mais plus
il y a
que des exceptions, en fait, parce qu'il suffit de décaler les choses, c'est-à-dire dans certaines situations... en fait, on fait l'expérience, les femmes, je veux dire, en tout cas les corps socialisés comme femmes, font l'expérience d'une puissance. Mais peut-être dans des choses qui sont moins considérées comme leur permettant, après, d'agir. Porter quelque chose de lourd, enfin, lancer quelque chose, ça veut dire juste qu'on est capable de porter quelque chose. D'accord. Après, c'est le geste de lancer. Mmh. Mais porter des courses, pousser une poussette, avoir un enfant, porte-bébé, peu importe.
Oui, c'est des expériences de puissance physique.
C'est des expériences, en fait, qui mobilisent une puissance physique, mais qui ne sont pas codées comme une expérience de puissance physique. C'est-à-dire que c'est un entraînement du corps, porter, tirer, je veux dire. Ça rend le corps très fort, mais c'est pas encodé comme me permettant, comme me donnant à moi-même un sentiment de puissance. C'est au contraire encodé comme étant extrêmement contraignant, comme étant fatigant, etc.
Alors que
par exemple, si je prends un métier par exemple masculin, très physique, on va dire voilà, je peut-être un ouvrier du bâtiment, etc. C'est un entraînement physique, c'est très éprouvant, mais en même temps, c'est une forme de puissance corporelle. Mais on va avoir une représentation, un encodage social qui va faire, c'est un corps fort, puissant, et puis ça va nous amener jusqu'au pub de Coca-Cola avec l'ouvrier qui ouvre sa canette et qui fait baver toutes les filles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est encodé comme de la puissance corporelle. Plein d'autres expériences, en fait, ont un sens qui fait au contraire c'est le poids du monde qui est sur mes épaules. Et ça c'est une forme de discipline, en fait. C'est une discipline et des corps et des esprits. Et à la fin, on se retrouve avec un sentiment d'impuissance. C'est avec
ou un sentiment de puissance, je me dis, de la part de ces hommes qui arrivent qui
exactement.
Cassent des trucs et tout. Enfin, voilà, là, il y a eu des vitrines de banques cassées, Dior, des tags sur l'arc de triomphe, même le fait d'attaquer des policiers et tout, c'est...
Oui, mais ça, alors, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un côté, on a du coup un sentiment de puissance. De l'autre côté, dans d'autres expériences qui ne sont pas, pensées comme ça, c'est au contraire un sentiment d'impuissance qui est complètement incorporé. Et donc, on n'arrive pas ensuite... à traduire cette expérience, cet exercice de soi sur j'ai le droit de me mettre en colère, j'ai le droit de prendre un pavé et fracasser la vitrine d'un fast-food. Après, il y a autre chose qui se passe aussi, c'est que on parle de pulsion scopique, d'attirance là, un peu malsaine, fascinée pour les scènes de violence et qui vont être on a cassé, c'est très violent, d'ailleurs
il y a du feu,
donc c'est des scènes presque de révolte, mais je pense vraiment que c'est aussi lié à une à une époque, à une situation où tout passe par le prisme, en fait, visiblement, enfin, du visible, de la visibilité, en fait.
Qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse selon laquelle il y a des hommes qui ont été socialisés à mieux déployer leur corps et à faire l'expérience de leur puissance, et que ça s'est valorisé aussi chez eux, alors qu'une femme qui détruirait des choses, qui casse des choses et tout, c'est stigmatisé et on la range dans la catégorie des folles ou de... en tout cas, c'est vraiment très très mal vu, en fait, de faire preuve de violence quand on est une femme.
Alors, c'est clair qu'une femme qui use de violence ou qui passe à la violence, elle est pathologisée. C'est ça. Donc, c'est vraiment toute la problématique. C'est une hystérique, elle est folle, etc. Donc, c'est la pathologisation. Et du coup, ce qui fait comprendre que toutes les femmes qui se sont exprimées dans une expression qui était qualifiée de violente sont des exceptions. Et la plupart, d'ailleurs, ont été pathologisée, mais pas seulement dans les discours. C'est-à-dire, si je pense à une grande révolutionnaire au moment de la Révolution française qui appelait à porter les armes, à créer des bataillons de femmes et qui s'appelle Thérouanne de Méricourt, elle a fini à l'asile. C'est-à-dire, elle a été internée de force. Et
elle a été oblitérée de l'histoire.
Exactement, et oubliée de l'histoire. Donc, je veux dire, quand on parle de la pathologisation, ça va loin. Du coup, le tranchant, si vous voulez, il va passer plus par la médicalisation de ces femmes, l'encadrement, la surveillance, etc., la surveillance médicale. En revanche, du côté des hommes, alors il y a une plus grande acceptation, mais dans le contexte actuel, si on reprend encore l'exemple des Gilets jaunes, là, il y a un enjeu viril. L'enjeu viril, c'est que précisément parce que les Gilets jaunes, on va dire, encore une fois, c'est probablement, ça mériterait beaucoup plus de subtilité, mais on va dire que c'est plutôt les classes populaires qui sont en train d'être dans la rue et de contester, d'ailleurs, sur des revendications de survie, quoi, de vie, de pas finir les fins de mois. Là, les hommes, comme c'est plutôt des hommes des classes populaires, sans représentation, sans médiation, eh bien, il y a un enjeu viril, une sorte de bras de fer entre la présidence Macron et son gouvernement qui veulent convaincre que l'État reste fort, que l'État ne pliera pas, que l'État ne cédera pas. Et en fait, c'est là où la perversion de la chose. C'est que si on... En fait, ils pensent que s'ils écoutaient les revendications qui sont légitimes et dont ils ont le devoir, d'écouter... S'ils écoutaient ces revendications et s'ils instauraient une politique, enfin, de protection des plus démunis, quoi, tout simplement, au lieu d'être une politique pour les riches, eh bien, ce serait une façon de faiblir, une façon presque efféminée. Vous voyez, on serait pas un État courageux, on serait un peu des femmelettes, quoi, parce qu'on aurait cédé, Donc, du coup, la répression, elle est ultra violente sur les Gilets jaunes, comme elle a été ultra violente par exemple dans les quartiers populaires et qu'elle reste ultra violente dans les quartiers populaires, parce qu'il y a un enjeu viriliste, non pas du côté de ceux qui revendiquent, mais du côté d'un État qui rabat la question d'un État fort sur un État viriliste, sourd, violent et matraqueur, quoi, vraiment, et avec l'idée selon laquelle quand un État de droit, c'est un État qui ne plie pas. Mais alors, c'est un État de droit pour qui, en fait ? On parle de quoi ? C'est-à-dire des droits de qui, de pour qui, etc. Donc l'enjeu viriliste, il est plutôt sur la représentation d'un État qui est un État, encore une fois, sécuritaire, et lui qui est traversé de façon, consubstantielle par une idéologie de genre.
Et justement, moi j'avais une question là-dessus, on en revient à cette histoire d'image. Est-ce que le fait de se réfugier médiatiquement dans l'image de la violence concrète, c'est aussi une manière d'occulter ou d'oblitérer la vraie source de la colère, qui est la violence sociale, mais qui est une violence que par essence on ne voit pas ?
Alors, d'une part, il y a complètement une focale, hein, qui, c'est clair, c'est-à-dire que... Et puis avec un discours derrière, donc l'extrême violence, des guerres de fin du monde, des images de fin du monde, c'est des images de guerre, etc. Et focaliser sur, par exemple, la destruction de certaines statues de l'Arc de Triomphe, de magasins, de voitures, et qui vont être choquantes moralement, en fait, qui ont pour fonction de choquer moralement, en fait, les personnes qui sont témoins de ces images. Mais d'abord, ça veut dire que, d'une part, on ne montre que certaines images. Et là, il y a un choix de dire, on pourrait montrer beaucoup d'images de violence, en fait. Beaucoup d'images, y compris de femmes ultra-violentes qui sont en colère, qui se défendent, qui ne sont pas d'accord. Donc, là, on est sur ce mouvement-là. On montre des hommes ultra-violents sur des biens. On qualifie ça d'extrême violence. Mais de la même façon, on pourrait considérer que quand on voit de façon assez furtive, mais quand même, on a vu les images de snipers sur les toits, de Robocop, qui lancent des flashballs dans la tête des individus qui sont juste en train d'exprimer un droit fondamental qui est le droit de manifester. Ils prennent la responsabilité de détruire des biens, mais il n'y a pas atteinte aux personnes. Mmh. Donc, je veux dire, il y a vraiment une forme, oui, de créer une sorte de... à la fois de fascination, parce que ces images passent en boucle, et en même temps, on suscite une sorte de désapprobation morale. Mais à chaque fois, il faut se poser la question, une désapprobation morale, c'est une façon aussi de substituer à une réflexion politique une forme de stupeur moralisante en disant « Ah, c'est pas bien ». Mais en fait, oui, bien sûr, c'est pas bien. Mais quand on n'est pas content, il y a des conséquences. Encore une fois, il n'y a pas d'atteinte aux personnes. Et je veux dire, même, il y a une forme de sagesse commune, une conscience commune. On le sait, même quand on est enfant, je sais pas, ma grand-mère, ma mère, peu importe, si j'étais en colère, je cassais un objet... Voilà, elle n'était pas contente, mais à la fin, elle me disait « Ok, c'est pas grave, tu t'es pas blessée. » Ben là, c'est pareil, en fait. C'est pas grave.
Il y a une histoire de légitimité aussi, j'ai l'impression, parce qu'on a le sentiment, je sais que vous avez travaillé sur ces questions-là, notamment sur à l'époque des émeutes de banlieue en 2005, qu'il y a une forme... on va dire, socialement pas accepté de violence, considérée comme illégitime, qui serait la violence justement dans la rue, l'expression de la colère. Et encore une fois, j'en reviens à mon histoire de violence sociale, qui là est quasiment légitimée, en tout cas n'est pas vue, donc est presque légitime.
C'est aussi l'idée que, tout à l'heure on parlait de discipline des corps, mais il y a aussi une discipline des formes d'expression, des formes d'expression sociale et des formes de contestation sociale. Il y a aussi une discipline de ces formes. On le sait parce que beaucoup d'historiens et d'historiennes ont travaillé, par exemple, sur l'histoire de la manifestation et sur l'idée que des formes de contestation, tout au long du XXe siècle, en tout cas à partir des années 30, se sont euphémisées. C'est-à-dire qu'ensuite, toute contestation devait se cadrer dans des manifestations encadrées, avec un parcours délimité, etc. Quand vous arrivez dans une situation sociale et politique, où quel que soit le nombre de personnes qu'il y a dans la rue, quel que soit, si vous voulez, l'ampleur d'un mouvement, dans les cadres, dans les formes, gentiment, qui défilent, qui parlent, qui revendiquent, c'est-à-dire qui énoncent un discours de revendication, et qu'en face, vous avez des représentants politiques qui sont élus de la République, donc qui ne tiennent leur légitimité que du peuple, considère que, quel que soit le nombre, quelles que soient les revendications, la réforme passera. Parce que c'est bien pour le peuple. Donc on fait votre bien malgré vous, quoi. Mais ça, c'est vous infantilisez complètement, vous méprisez, en fait, le peuple de citoyens. Et donc forcément, on arrive à un cran supérieur où, à un moment donné, on va sortir du cadre, on va sortir de cette discipline, on va s'en sauvager, dans une certaine mesure. Et ça, c'est la réponse du déni, de la non prise en considération de la situation, des conditions matérielles aussi de ce peuple. Et il y a vraiment, je veux dire, une critique aujourd'hui. Il y a presque une indécence du côté des professionnels de la politique, à continuer à critiquer, je veux dire, l'extrême violence et ne pas considérer que c'est politique. Et ça, c'est pour ça que c'est exactement le parallèle avec, non pas les émeutes, mais justement les révoltes des quartiers populaires en 2005, parce que le point, ça a été, dès que vous sortez des cadres dans lesquels il convient de vous exprimer, et alors même qu'on sait très bien qu'on ne va pas vous écouter, dès que vous sortez des cadres, alors vous êtes en dehors du politique. Oui. Donc vous êtes délégitimé comme citoyen, et on considère que c'est barbare, que c'est sauvage, que c'est irrationnel, que c'est extrêmement violent, que ça ne veut rien dire au fond, que ça ne fait pas sens. Mmh. Mais évidemment que ça fait sens. Et donc en 2005, par exemple, le point qui a été le plus saillant dans la prise en considération, l'analyse des révoltes de 2005, ça a été de dire c'est pas politique, regardez, ils vont brûler leurs bibliothèques et leurs écoles. Mais c'est éminemment politique, justement. Et donc, dénier à un individu le fait que c'est un sujet à part entière, c'est-à-dire digne de s'exprimer dans les formes qu'il choisit et digne d'être entendu par les personnes qu'il a mis au pouvoir, bah, ça, c'est une violence extrême, en fait. Elle est là, la violence. Mmh. Elle n'est pas dans le fait de casser des magasins de luxe ou de renverser des tables à des terrasses. La violence extrême, elle est ici, c'est-à-dire dans le déni absolu du fait que des personnes qui sont au pouvoir et qui ont été mises au pouvoir par le peuple sont complètement dans une indifférence absolue aux conditions matérielles dans lesquelles ils mettent eux-mêmes leur population.
Il y a aussi l'idée peut-être de ne pas avoir envie de négocier, en fait, de ne pas avoir envie de demander, de ne pas réclamer justement poliment, gentiment, d'être entendu, mais d'aller directement au combat. Ça fait écho à quelque chose dont vous parlez dans votre livre, qui est le combat des suffragistes anglaises au début du XXe siècle, qui justement dans leur démarche avaient l'idée de ne pas demander parce qu'on ne les écoute pas.
Oui, mais ça, alors là, c'est toute la question de la représentation politique. Et du coup, on parle beaucoup en ce moment, d'ailleurs, de la disparition, au fond, des corps intermédiaires, oui, qui font le lien entre, on va dire, si je reprends encore cette catégorie, entre le peuple et les représentants élus ou l'État, et qui sont les syndicats, etc., les partis. Bon, là encore, j'utilise cette distinction parce qu'elle est utile. Mais au fond, c'est un peu toujours considéré que le peuple est toujours immature pour s'exprimer directement lui-même, en fait. Donc la représentation, de toute façon, elle a une sorte de biais de départ. C'est-à-dire qu'on considère qu'il faut retraduire toujours, il faut que ce soit des personnes qualifiées qui retraduisent les besoins du peuple et déterminent les principes généraux pour qu'une société soit bien ordonnée. À un moment donné, on peut aussi avoir une autre perspective politique et considérer que non, la représentation, c'est une arnaque, en fait. Que la représentation est une forme de trahison, par essence. Donc, que l'expression directe, c'est aussi peut-être la seule action véritablement politique. Et les suffragistes, au début du XXe siècle en Angleterre, parce qu'elles étaient aussi dans une perspective internationaliste, anarchiste, etc., considéraient que on ne peut pas passer par les représentants élus pour demander le droit de vote, par exemple, des femmes, parce que c'est précisément ces représentants élus au Parlement, qui sont par définition que des hommes, qui dénient ce droit de vote depuis des décennies. À chaque fois qu'une proposition pour le droit de vote des femmes était présentée, elle était renvoyée, exactement comme en France. Donc c'est un problème de la représentation. Donc et plus fondamentalement encore, elles ont énoncé l'idée qu'on ne peut pas demander à l'État de nous protéger ou de nous aider ou d'améliorer nos conditions de vie, alors même que c'est précisément cet État qui est directement responsable des discriminations qui pèsent sur nous, de la non-protection dont on fait l'objet, etc., etc. Donc, au fond, elles ont considéré que l'État étant un État patriarcal et bourgeois, on n'allait pas lui demander gentiment si on pouvait avoir des droits, mais elles ont pris la rue et elles ont revendiqué directement en imposant un rapport de force. Et le rapport de force, il ne s'impose pas en demandant gentiment « Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît ?» Parce que de toute façon, ça ne marche pas. Mais il s'impose précisément en créant une pression. Et la pression, eh bien, là, on le voit par exemple avec les Gilets jaunes. Hein, ils exprimaient très clairement le fait que si on fait perdre de l'argent aux grands centres commerciaux à la veille de Noël, eh bien, peut-être ça forcera l'écoute des gouvernants.
Thank you.
Et pour suivre au plus près ces questions de genre et de masculinité que nous venons d'aborder, je ne saurais que trop vous conseiller, si ça n'est pas déjà fait, de vous abonner au podcast de ma camarade Victoire Toyon, Les couilles sur la table, Victoire que je remercie par ailleurs chaleureusement et qu'on retrouvera très vite dans Programme B. Merci aussi à Elsa Dorlin pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson et Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B à binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.